plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, D comme 2000, Cécile B 2000, avec Pierre Berthaumieux et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Produire des films pour son propre plaisir ou pour l'admiration d'une petite coterie d'esprits semblables est une occupation honorable. Produire des films pour le divertissement du public ne l'est pas moins. Il y aurait un snobisme imbécile à nier n'importe laquelle de ces deux propositions. Ma profession consiste à réaliser des films de divertissement populaire. Cécile B 2000. Cécile B 2000, ce nom à lui seul incarne le classicisme et la démesure hollywoodienne, et pour cause, Cécile B. 2000 fut un des fondateurs d'Hollywood en 1914 et il y inventa nombre des formes qui ont constitué ce langage universel qui allait déferler sur le monde entier. En 40 ans de carrière et 80 films, il aurait attiré à lui seul 4 milliards de spectateurs. Un film, son dernier, Les Dix Commandements, a gravé à jamais dans les tables de l'histoire du cinéma l'image d'un cinéaste mégalomane et grandiloquent, spécialiste du péplum biblique et kitsch, des foules gigantesques et du pompiérisme emphatique, sauf que des péplums. Cécile B. 2000 n'en a réalisé que 8, des bibliques que 4. Sa filmographie est d'un éclectisme surprenant et non seulement dans sa période muette, sans doute la meilleure. 6 de ses longs métrages parlants viennent de sortir simultanément en DVD et en Blu-ray. 2 péplums, certes, et pas des moindres, Le Signe de la Croix et Cléopâtre. 2 westerns, Les Tuniques écarlates et Les Conquérants d'un Nouveau Monde. Un film d'aventure maritime, Les Naufrageurs des Mers du Sud. Et une rareté inédite en DVD, un film noir quasi languien, La Loi de Lynch, l'occasion pour Plan Large de dégager quelques lignes de force thématiques et stylistiques chez ce colosse du divertissement qui est aussi un authentique auteur, avec Pierre Berthaumieux, historien du cinéma, qui a notamment consacré un chapitre au cinéaste dans son livre Monstre, Hollywood classique, Le Temps des Géants. Ça s'appelait Le Canon Cécile B. 2000 au commencement et à la fin du monde. Et puis il y a aussi Ntebin avec nous aujourd'hui, notre Moïse et notre Samson tout à la fois, qui en fin d'émission nous chantera 3 perles du polar anglais récemment paru en DVD. Mais pour l'heure, place au spectacle, place au désir, place à la foi.
Marcus, do you love this girl? Answer me!
Well then, I... I don't know.
That says you perhaps do. I could laugh with Rome about it if I didn't care so much. Marcus Superbus, caught at last by a Christian wanton.
You've no right to call her that.
Oh, very much in love.
Well, why not? It's not so impossible, so laughable. She's young, beautiful, virtuous. I find I'm sick of patrician women who haven't heard of virtue.
That's a direct enough insult.
I couldn't avoid it.
I never saw a man who held his life so cheaply.
That sounds like a threat.
I've never threatened with you. I shan't unless you drive me to it. The game is dangerous enough without my threats. Tigellinus knows what you've done. No citizen can protect a Christian from the law.
Well, in this case, I can't stop to remember the law.
Then I shall make you stop to remember me. You'll give up this girl, Marcus.
Will I?
You'll forget about her entirely.
I've stayed too long. Empress.
C'est par le désir, puis par l'amour, que Marcus Superbus, le préfet de Rome, sera amené à la chrétienté dans un ultime retournement, comme Cécile B. 2000 en a le secret. C'est un extrait du Signe de la Croix, celle avec qui il part, c'est Poppée, jouée par Claudette Colbert, l'impératrice de Rome. Alors là, on est dans le péplum, pas biblique, parce que c'est pas un épisode de la Bible, mais religieux, en tout cas, chrétien. C'est le canon du cinéma de 2000. Et en même temps, on est déjà là dans un paradoxe chez Cécile B. 2000 avec ce film. D'abord parce que même dans les films les plus démesurés chez lui, il y a toujours ce genre de scène d'intimité qu'il aime beaucoup filmer. Et puis évidemment, pour ceux qui ont vu le film, s'il se donne pour mission d'élever moralement le spectateur, ses films sont quand même très souvent d'une sensualité, pour ne pas dire d'un érotisme assez torride. Ceux qui auront vu le bain dans le lait d'ânesse de Claudette Colbert s'en souviendront à jamais. Poppée, la femme la plus perverse du monde, c'est comme ça que 2000 avait vendu le rôle à Claudette Colbert. On oublie un peu le personnage très vertueux dont Marcus Superbus tombe amoureux, hein, c'est Mercia, incarné par Elissa Landi. Alors c'est quoi l'idée chez 2000? C'est d'aller chercher le spectateur parce qu'il a de plus animal pour l'amener vers une sorte de spiritualité? Ou c'est simplement faire venir des spectateurs en masse?
Les deux, mon colonel, c'est-à-dire que faut comprendre que son père était prédicateur et que son père avait conclu au fait qu'il aurait beaucoup plus de spectateurs, il toucherait beaucoup plus de gens en écrivant des pièces de théâtre qu'en étant prédicateur en chair. Et 2000 a suivi cette veine-là, c'est-à-dire que lui, il a tout de suite fait omission de la chair pour aller vers le théâtre, puis vers le cinéma. C'est pour ça qu'il incarne si bien Hollywood de quelque époque que l'on parle, c'est-à-dire il y a une vraie ambition morale et spirituelle, puisque c'est une vraie œuvre religieuse et mystique, et une œuvre qui assume complètement l'impureté. Il s'agit de cerner la mode. Qu'est-ce qui est à la mode dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40? Parce que prendre le langage de la mode, c'est parler au public de son époque, et donc le mélange du spirituel et de la mode crée une impureté totalement flamboyante. Et il faut rappeler que 2000 était un chrétien épiscopalien, qui était donc un protestant, fasciné par le catholicisme, par son érotisme, par son incarnation, par son masochisme. C'était quelqu'un qui était très respectueux de l'islam, c'était quelqu'un qui était fasciné par Ramakrishna et qui était bouddhiste, puisqu'en fait il croyait en la réincarnation. Il était persuadé que s'il réussissait aussi bien les films historiques, c'était parce qu'il avait vécu dans toutes les époques qu'il filmait. D'ailleurs, dans ses films muets, il met des personnages
très documentés,
qui croient en la réincarnation. Et donc, petit à petit, le signe de la croix est un exemple parfait. Il y a l'idée hollywoodienne d'être un pédagogue moral, mais la pédagogie de la morale ne va pas sans la dialectique du fantasme. Et donc le fantasme, il faut le faire vibrer, il y a un vibrato, il faut le montrer. Donc comme il disait, comment voulez-vous que je montre ce à quoi les chrétiens résistent, si je ne le détaille pas? Donc on fait vibrer le fantasme, on fait adhérer par des scènes d'orgie, par des cordes dénudées, des choses extrêmement libertines, ben, pour l'époque d'ailleurs, Signe a eu des problèmes avec la censure. Hein. Et une fois que le film se termine, on dit maintenant, on revient dans le cadre de la morale. Cette dialectique du fantasme le plus débridé, qui en fait un cinéaste baroque, elle s'articule avec le goût très sincère de la morale, qui a fait un cinéaste classique.
Oui, alors c'est ça qui est très fascinant chez lui, Entebbe, c'est que on le pense comme le cinéaste classique par excellence, enfin l'incarnation du Hollywood classique, celui des studios, et il y a des moments de baroquisme visuel, on n'est parfois pas très loin d'un Kenneth Anger, c'est très curieux dans la débauche et le délire même esthétique, et ça dépend des scènes, c'est-à-dire qu'il y a un côté comme si deux hommes cohabitaient en lui.
De toute façon, premièrement, dans le cinéma hollywoodien, je pense que baroque et classique ne sont pas des termes opposés. Et deuxièmement, comme l'a dit Pierre Berthomieu, je crois que le spectacle total, justement, prend des éléments dans tout ce qui peut faire spectacle. Et ce qui est intéressant aussi dans les films de 2000, c'est qu'ils montrent, peut-être pas une réflexion, mais en tout cas une représentation du spectacle lui-même. Il y a très souvent des spectateurs dans ces films qui nous interrogent sur notre place à nous.
Notamment dans le Signe de la Croix, puisque dans l'arène, on va suivre les spectateurs et leur visage à la fois très excité et révulsé par ce qu'ils voient.
Mais ce qui est très étonnant, je sais qu'on ne va pas parler tout de suite de ce film rare, cette perle rare, mais il y a, si on voit le Signe de la Croix et qu'on voit ensuite La loi de Lynch.
Qui a été tournée immédiatement après.
Ou voilà, juste après. Il y a des scènes de torture qui veulent dire, a priori, l'inverse l'une de l'autre, mais qui sont filmées de la même manière. Et qui sont, voilà, avec le même genre de personnes qu'on enfonce dans une sorte de fosse abominable. Et puis, des gens qui regardent ça à la fois terrifiés, fascinés, et comme les spectateurs de l'époque.
Mais ça, c'est la côté moderne du cinéma classique, c'est-à-dire qu'il autorégule. D'autant que
je précise simplement qu'on voit les visages des gens qui regardent et qui sont horrifiés, mais on ne voit pas ce qui se passe dans la fosse. Pierre Berthomieu.
Oui, je veux dire, c'est le côté moderne du cinéma classique, c'est-à-dire que c'est classique, c'est baroque, mais 2000, il n'est pas le seul, mais lui, il le fait souvent, il a même fait un film sur le cirque, donc il ne cesse de montrer des spectacles débridés ou violents ou érotiques, et de montrer des spectateurs qui sont appâtés ou révulsés ou ennuyés quand on leur suggère qu'ils vont voir quelque chose de pas très érotique, de pas très flamboyant, ils n'ont pas très envie d'avoir de bonnes places. Évidemment, dès que le spectacle est plus coloré dans tous les sens du terme, dès qu'il est plus épicé, ils ont envie les meilleures places. Et donc c'est quelque chose qui tend la main au spectateur pour lui dire viens prendre toutes les sensations et en même temps prends conscience de ce que tu regardes. Alors c'est pas une simple mise en abîme naïve, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui place le spectateur ou qui l'enrôle dans la fiction à plein de degrés. C'est à la fois très très ludique. Je dirais c'est de l'émerveillement enfantin à tous les degrés et avec de toutes les manières de jouer possibles.
A gift for Caesar from Nayan, the merchant.
We give nothing to Romans here.
Did you say for Caesar? I saw.
What do you think you own? The earth?
Yes.
And we have made a settlement with Egypt, whereby we support young Ptolemy as king.
Your seal, excellence.
Against the sedition of his sister, Cleopatra. Who, by all reports, has fled to Syria.
A gift for Caesar, fit even for his eyes.
Thanks. Give him something.
The wax is ready for your seal, Caesar. The rug, Excellence. Will you receive it?
What? Yes, yes, put it down.
Excellence, the wax is cooling.
Observe, Caesar. A most unusual design. What?
Well! Greetings to Caesar from Egypt.
Very amusing joke. Very good. But I'm too busy. Huh? What's the matter?
Tell him, Papinus. Tell him what's the matter. If your lying tongue can find the words. I'm Cleopatra.
On offre un tapis à César, et qu'est-ce qu'il y a dans le tapis? Il y a Cléopâtre, Claudette Colbert. C'est donc évidemment Cléopâtre, Cécile B2000 en 1934. On a beaucoup reproché à Cécile B2000 son sadisme, qu'il n'aimait rien tant que de fouetter des femmes, que de les offrir aux lions, comme on vient de le voir dans le signe de la croix. Il y a quand même des personnages féminins extraordinaire chez Cécile B2000, extrêmement complexe. Et cette Cléopâtre, c'est une femme qui est à la fois mutine, manipulatrice, stratège, mais aussi une amoureuse, aussi une femme passionnée, et surtout une femme qui doit se défendre dans un monde d'hommes. Et souvent, les hommes sont assez monolithiques, on a le sentiment, chez Cécile B2000, et les femmes d'une grande complexité. Là encore, Pierre Berthomieu.
Oui, alors les hommes sont certainement plus monolithiques quand ils sont interprétés par des stars moins puissantes, moins colorées que Charlton Heston. Et effectivement, je pense que ça doit beaucoup au fait, comme vous le rappeliez, que il a d'abord été un maître de la comédie conjugale dans les années 20.
Oui, il a inventé la comédie sophistiquée. La comédie du remariage, ça c'est une des grandes inventions de Cécile B2000.
Absolument. Donc il a été habitué à façonner des personnages féminins dans leurs désirs finalement les plus intermittents, les plus fugaces, et dans leur volonté de s'affirmer. Ce qu'on retrouve, parce que Cléopâtre, au fond, si on n'était pas en Égypte avec Jules César et Marc-Antoine, s'il n'y avait pas les costumes antiques, ça commence dans un boudoir avec les suivantes de Cléopâtre qui ne la trouvent pas. On est dans une comédie conjugale et sophistiquée où est la femme. Ah, donc on l'a enlevée. Oh mon Dieu, on est entre la comédie conjugale et l'opérette. On voit bien que ça va tourner autour d'une femme et les hommes autour d'elle, de fait enfin, je pense que Jules César est plus raffiné que Marc-Antoine dans cette version, sont des satellites de Cléopâtre et d'un personnage féminin qui lutte. Dans la première partie, je dirais, c'est l'héroïne d'une comédie conjugale où elle prend le pouvoir. La deuxième partie, c'est une figure tragique. Mais effectivement, les personnages féminins sont très forts. Chez 2000, même dans les films où elles connaissent des mésaventures qui semblent donc en faire des victimes à répétition, c'est souvent, alors peut-être moins là quand les héros sont Charlton Heston ou Gary Cooper, mais c'est souvent les personnages que l'on retient. C'est un grand peintre de la femme.
Et c'est aussi un grand peintre de l'action, évidemment. Ça m'a frappé en revoyant Cléopâtre. Il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, où c'est filmé comme ça, en plan fixe, les séquences sont assez longues. Et puis, il y a cette séquence de bataille, Entebbe, où tout d'un coup, on se dit, mais Eisenstein est venu faire un tour dans ce film. Je ne sais pas combien il y a de plans dans les 4-5 minutes que dure la bataille, mais enfin, il y en a plusieurs centaines. Et c'est extrêmement surprenant.
Alors, il y a deux choses qu'il faut souligner. D'abord que 2000... comme des gens comme Lubitsch, par exemple, qui va se retrouver en même temps que lui à la Paramount. Ce sont des cinéastes qui ont été formés par le cinéma muet, avec le visuel qui primait à un moment où il n'y avait pas de dialogue dans les films, premièrement. Et ce sont des cinéastes qui, à cette époque-là, quand ils ont démarré, produisaient et réalisaient les films. C'est-à-dire, on disait un film d'Ernst Lubitsch ou un film de Cecil B. DeMille, parce qu'il était aussi produit par eux. Pas uniquement metteur en scène, c'est-à-dire que non seulement il maîtrisait tous les aspects de la préparation et de l'initiation du projet, enfin au départ, mais en plus ils étaient très conscients de ce qu'on appelait les production values, c'est-à-dire de montrer à l'écran le spectacle que mérite l'histoire qu'ils sont en train de raconter et d'avoir les moyens de le faire avec les équipes, avec les meilleurs spécialistes, y compris dans des effets spéciaux, mais je parle des chefs décorateurs, des costumiers, tout ça faisait partie de l'instrument du train électrique qu'utilisaient des gens comme 2000 pour en mettre plein la vue.
Pierre Berthomieu.
Oui, alors c'est exactement ce que je veux dire. Le train électrique, chez lui, il y a, je pense, enfin, effectivement, en termes de production économique, de montrer tout ça, mais l'écran, le cadre est une caverne dans le trésor. Donc, il faut que ça contienne le plus de figurants possible, organisé comme dans un grand tableau, le plus de morceaux de décor possible. Et quand on se dit que le cadre est plein, mais il y a toujours une catapulte supplémentaire qui va donc arriver. C'est des surprises constantes. C'est-à-dire, le cinéma est pas fait pour qu'on fasse des arrêts sur image. Ça cool, mais quand on arrête l'image, on dit « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça », c'est pas ça, ça déborde, ça, c'est profond, c'est une caverne.
The wicked skunk, what has done up from the bonnet, mousse, pristi.
What to the deal?
Bonjour, you snake in the bush.
Duroc, you old porcupine.
You son of a pumpkin.
It's a porky trick. You snooling clute.
Who is snooling clute?
Oh, you shrieking bird of a vision! Oh, my yarn, my bunny yarn. I'll never dare to shoot.
Oh, you skunk, you! Sapristi, sapristi, such a thing.
How long were your teeth done?
Sac of papier.
Yeah. Sac à papier, si on entend autant de jurons français, c'est qu'on est au Canada, on est dans les Tuniques écarlates de Cécile B2000 en 1940. Et alors, là encore, pour qui croirait que le cinéma classique, c'est la linéarité, tout est au même niveau, il y a Entebbe sans arrêt chez Cécile B2000, ces moments de rupture de ton, des détournements de suspension, de comédie bouffonne assez étrange. Alors, on a parlé du Cécile B2000 qui vient de la comédie. Bon, là, on n'est pas vraiment dans la comédie sophistiquée. Il y a ces moments comme ça de stase étrange chez 2000.
Oui, et en fait, c'est un film qui, le premier film en couleur de 2000, avec une utilisation de la couleur extraordinaire, mais c'est aussi un film.
Les tuniques rouges, on comprend pourquoi voilà. Il allait tourner
oui,
au Canada.
Il y a le sang, enfin bon. Et c'est un film où il y a genre un coup de théâtre à chaque scène, en fait. C'est-à-dire, c'est étonnant. Et ça peut être des coups de théâtre avec des conséquences extraordinaires qui vont changer l'avenir de la nation. Et ça peut être des coups de théâtre tout à fait minuscules qui concernent un accessoire. Et à un moment donné, il faut se laisser emporter. Hein, parce que si on essaie de décrypter ou d'analyser au fur et à mesure ce qui se passe, c'est quasiment impossible.
Cécile B2000 n'est pas spontanément associée au western. Quoi. Tout le monde va dire encore c'est le péplum biblique. On oublie là encore qu'on parlait de son invention de la comédie sophistiquée. C'est aussi un des inventeurs du western, si ce n'est l'inventeur du western. Parce qu'il a tourné en tout cas le premier western à Hollywood, c'est Le mari de l'Indienne, The Squawman. Et pour autant, quel rapport a-t-il avec cet aspect du western qui est la construction d'une nation? On n'est pas exactement chez John Ford quand on regarde un western de Cécile B2000.
Non, alors, oui, de fait, il réalise le premier western de long métrage, Squawman. Alors, il aime tellement le sujet, d'ailleurs, qu'il le tournera trois fois. Une fois en 14, une fois en 18, une fois en 31. Alors, sans aucun doute, quand on fait des westerns, ce qu'il a fait à plusieurs reprises, donc, il a la passion de l'histoire, de la grande histoire, des mythes fondateurs de l'Amérique. Et c'est sous cet angle-là, c'est-à-dire que c'est le western en tant que film d'histoire qui l'intéresse. Parce que par rapport à un John Ford ou à d'autres grands cinéastes du western, si c'est un maître de la couleur, si le Technicolor, dès qu'il peut l'utiliser, il l'utilise de manière vorace, et même s'il y a des plans d'ensemble très impressionnants dans Les Tuniques écarlates ou d'autres films, les paysages ne l'intéressent pas beaucoup. C'est-à-dire que...
Oui, généralement, c'est projeté sur une toile peinte, on est quand même en studio.
C'est projeté en transparence.
Quand il y a des vraies images, c'est un cinéaste de seconde équipe qui se déplace et lui, il ne bouge pas.
Exactement. C'est-à-dire que les grands paysages sont laissés à la deuxième équipe. Ce qui l'intéresse, c'est les acteurs ou en intérieur ou en studio. Donc, je dirais, quelqu'un qui n'a pas ce rapport au paysage n'est pas un authentique auteur de western. Donc, c'est en cela qu'il n'est ni Ford, ni Anthony Mann ou autre. Donc, c'est vraiment la grande histoire. Mais alors, Les Tuniques écarlates, comme Entebbe le dit très bien, c'est un peu un baromètre. Savoir si on aime 2000, on peut regarder ce film-là et se demander si l'extravagance permanente, qui n'est jamais, c'est ça, qui n'est jamais au deuxième degré. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans la parodie, hein. Sinon, ce ne serait pas un grand cinéaste classique, ni un lyrique. Et dans, on va du burlesque, c'est quand même les Tuniques, c'est un film où le héros s'appelle Dusty Rivers, où il est autant occupé à récupérer une mitraillette qu'à constater qu'il est mal à l'aise avec des objets. À ce moment, il y a une planche anatomique qui lui tombe dessus. C'est un film totalement extravagant, avec, peut-être il faut le rappeler, le goût qu'a 2000 de l'extravagance visuelle, mais verbale. Gary Cooper disait, les dialogues de 2000, c'est pas un problème quand on lit le scénario, mais au moment où il faut les jouer, lui qui avait en plus un jeu très économique, c'est assez étonnant, lui il les faisait passer. Mais c'est quelqu'un qui a le goût du dialogue orné, littéraire, on se retrouve avec des personnages qui disent, oh Dusty, vous êtes un ange vêtu de cuir. Et donc il n'y a aucun deuxième degré, mais ça donne quelque chose qui est, vraiment, peut-être le terme n'a pas été dit, il y a de la poésie chez Cécile B2000, ça emporte l'imaginaire, si on veut bien se laisser emporter de manière innocente.
Gentlemen. Would any of you care to bid against me for this girl?
No.
I don't hold much with slavery.
That red hair could change a man's mind.
I'm starting at 20 pounds.
20 pounds is bid for Abigail Martha Hale, offering 14 years of servitude. Let him see your face, girl. Going once, going twice, for the third and last time.
And sixpence.
Come on, you've an eye like an eagle.
But I didn't ken your way of throwing.
Did you say something, sir?
Yes, I said, and sixpence. Then be a bodkin, Fergus. It's an Indian knife throw.
Captain Holden has a reputation for joking. Make your sale.
Oh, yes, sir. Yes, sir, Mr. Garth.
Go in to Mr. Goff, or...
You heard my bid?
Yes, sir. £20.06.
Would your humor desert you, Captain Holden, at, £50?
£50? Did you hear that?
What are you now?
£50 for this likely servant maid. Strong and willing. Do I hear another bid?
And sixpence.
£50 and sixpence. Do I hear 55?
Cash on the barrel.
Try another.
£50 and sixpence, I'm bid.
60.
And sixpence. That's better.
He must be very rich or very interested.
He hasn't even looked at me.
£60 and sixpence for this rare gem.
Smile, you little scut.
Do I hear another bid?
Yes. 65.
And sixpence.
And sixpence. Vous écoutez France Culture Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma qui se penche aujourd'hui sur le volumineux K2000. C'est sixpence, c'est la surenchère dans cette très très étonnante, étrange vente aux enchères d'une esclave. L'esclave, c'est Paulette Goddard, une esclave blanche sur un bateau, et Gary Cooper, dans le rôle de Chris Holden, va se battre contre Howard Da Silva, Garth, pour remporter l'enchère et pour pouvoir, pense-t-il, la libérée, c'est les conquérantes du Nouveau Monde, Cécile B. 2000, 1947. Le triangle amoureux, la rivalité de deux hommes pour une femme, c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment dans tous les films de Cécile B. 2000. C'est évidemment un ressort dramatique excellent depuis le théâtre. Là, on pense que l'homme se souvient du théâtre. Mais ce qui est très passionnant quand on regarde un peu des films de 2000 à diverses périodes, c'est qu'il y a une unité, malgré tout, des procédés dramatiques, des procédés stylistiques. C'est quelqu'un qui a trouvé très vite ses formes, Entebbe, et qui va s'y accrocher jusqu'au bout.
Oui, et alors là, ce qu'on vient d'entendre, alors c'est extraordinaire cet extrait, puisque presque toutes les héroïnes des films de Cécile B. 2000 ressortissent du thème de l'esclave libre. C'est-à-dire qu'elles sont, d'une part, elles manquent d'être asservies, ou les hommes veulent les asservir, et elles aspirent à la liberté. Et là, alors dans les films dont on parle, il y a la trilogie Paulette Goddard, il y a le diptyque Claudette Colbert, qui sont des actrices, toutes les deux d'origine française d'ailleurs, qui incarnent à merveille cette contradiction de l'héroïne de Millienne, qui vient des comédies conjugales et qui aspire à une sorte d'émancipation, pas seulement de leurs conditions, mais aussi de leurs désirs. Et ce qui est intéressant, c'est que 2000 va donner aussi une forme visuelle à ce désir, c'est-à-dire cette profusion qui est autour d'elle, c'est aussi un monde qu'elles aspirent à rejoindre ou à conquérir, en fait.
Et les couleurs sont encore extraordinaires là, mais y compris la couleur du fer rougi au feu, puisque cette pauvre Paulette Goddard va tout subir, y compris des tortures d'indiens extrêmement cruelles avec Boris Karloff en chef indien, ce qui sera assez reproché à Cécile B. 2000, où on dira que ce film-là, c'est un peu l'équivalent pour les Indiens de Naissance d'une Nation pour les Noirs. On oublie là encore que Cécile B. 2000, avec The Squaw Man dont on parlait tout à l'heure, le mari de l'Indienne, avait fait un film qui était tout à fait favorable à la culture indienne. Il y a 6 mois, nous avions fait une émission, un plan large ensemble, Pierre Berthomieu, vous étiez là aussi, Entebbe, c'était au Salon du Livre, nous parlions de western, et on observe la même évolution chez 2000 que dans le cinéma hollywoodien en général, c'est-à-dire la figure de l'Indien change extrêmement entre les années 10 et les années 40, là on est en 1947.
Alors oui, elle change, mais en même temps, comme vous le rappelez, c'est-à-dire que Les Conquérants d'un Nouveau Monde, on a affaire à un film qui reflète extrêmement bien la complexité idéologique, puisque on a les mésaventures d'une femme blanche vendue comme esclave. On parle souvent de l'esclavage noir, mais les États-Unis ont multiplié les possibilités. Ils ont aussi fait l'esclavage blanc. Donc c'est les mésaventures d'une esclave blanche qui va aller d'humiliation en humiliation. Effectivement, à un moment, elle est capturée par les Indiens qui, on va dire, dans une logique épique, sont les ennemis et sont représentés, Boris Karloff donc à leur tête, de manière diabolique, mais parce que 2000 est cultivé au fond, puisque c'est bien comme ça que les colons les percevaient, comme les envoyés de Satan. Mais il y a deux choses importantes qu'il faut rajouter dans ce film. La première, c'est que la fille du chef indien est un des personnages principaux, joué par la propre fille par Catherine de Mille, qui est le personnage tragique, finalement, celle qui est amoureuse d'un homme qui ne l'aime pas et qui ne l'a épousé que pour l'utiliser, qui renvoie au personnage de The Squawman. C'est-à-dire, il y a toujours une élégie tragique à une culture qui disparaît. Et puis, finalement, le vrai méchant, même si les Indiens paraissent bêtes et méchants et violents alors qu'ils sont plutôt lubriques et simplement ils ne connaissent pas la boussole. C'est ce que ce film montre. Mais le véritable méchant du film, c'est le marchand d'armes. C'est l'hypercapitaliste, celui qui potentiellement va développer le trust au détriment de la conquête de la liberté qui anime les vrais pionniers. Donc le blanc marchand d'armes est beaucoup plus méchant que l'Indien qui est à la fois représenté dans la culture protestante comme suppôt de Satan, mais aussi comme un personnage tragique.
Et c'est lui qui va corrompre effectivement la pureté. Alors il y a dans ce film un prologue, comme il y en a souvent chez Cecil B. DeMille. C'est l'effet de signature un peu, c'est le côté apparition d'Hitchcock dans ses films. Cecil B. DeMille avec la voix de Cecil B. DeMille. Alors dans ce film-là, va nous montrer Pittsburgh aujourd'hui, enfin à l'époque où il tourne, et puis il va nous montrer par un fondu enchaîné, comme il les aime beaucoup, le Fort Pitt, qui était à l'origine, Axel Black, qui va revenir régulièrement, mais ce coin perdu ne deviendra jamais une ville, ça n'intéresse absolument personne. Ça, c'est le côté démiurge un peu de Cecil B. DeMille. On est dans un prologue qui est moins cosmique que celui de Samson et Dalila, où là, on voit carrément la Terre. Enfin, c'est Cecil B. DeMille égale Dieu qui regarde notre petit monde de très loin. Pourquoi est-ce qu'il veut se mettre ainsi en présence dans ses films?
Il faut dire plus tard, c'est une tradition classique. C'est-à-dire Hitchcock se met en scène, DeMille se met en scène. Dans les films de John Ford, il y a plein de personnages qui sont borgnes, auxquels il manque un œil. C'est John Ford, Fritz Lang filmait ses mains. Donc c'est l'artiste classique, un peu comme dans les tableaux de l'époque classique du XVIIe siècle, va s'inscrire dans le tableau. Et alors, démiurge est exactement le terme, ou pharaon. C'est-à-dire que chez DeMille, le prédicateur, il est auteur, il se veut artiste avec un A majuscule, il se veut aussi transmetteur de la parole, mais il se prenait pour un pharaon. Il faut savoir que c'est quand même un artiste. Si on a par exemple la quasi-totalité des films muets de Cecil B. DeMille, c'est parce qu'il les préservait. Il gardait tout de ses films jusqu'au ticket de restaurant dans l'idée que il se réincarnerait, puisqu'il croyait à la réincarnation, et que tout ce qu'il avait vécu constituerait une pyramide. Donc il y a l'idée d'être le démiurge, mais d'être le pharaon.
Somebody's coming aboard.
Stop yawing and finish off.
Loxie, do you take this man to be your lawful wedded husband?
No, he does not.
We've got no need of a lawyer.
I'd be striving to get underway, Mr. Tulliver.
I'll take you home now, Loxie.
Get off this ship.
Hey, oh, man, look at that. Right on the boat.
Hey, Jake, somebody's waiting.
I've taken all I'm going to take from you.
Not quite.
Ain't she a hellcat?
Hey, what you doing?
You can't go around, Bully Red. Put me down,
Jack! Are you crazy, Stuart? He's the owner.
Jack! Jack!
Watch out, mate. He'll hog tie you.
Minute his arm, mate.
Hey, look at that one.
Shall I sell it back, Mr. Tulliver?
No, keep underway.
Aye, sir.
I'll come to Key West on another ship.
Don't touch me.
Put your hand on my shoulder and relax.
See home, the boss table.
Oh, you coward. You irresponsible. Ruffian.
Water's warm, isn't it?
What right do you think you've got to keep me from sailing with my husband?
He's not your husband. You didn't say I do.
What? Well, I will right now, Jack. I do.
Nous sommes dans Les Naufrageurs des Mers du Sud, encore un triangle amoureux qui se finit dans l'eau. Remy Lund vient d'empêcher le mariage de Paulette Goddard et John Wayne, tout simplement en la jetant à l'eau et en se jetant à l'eau après pour la secourir. C'est un moment de comédie encore assez étonnant. Alors je disais encore un triangle amoureux, sauf que le film là encore est assez complexe, puisque le héros n'est pas forcément celui que l'on croit. Je voudrais qu'on aille un peu rapidement à Entebbe. Je sais que c'est un de vos films préférés, parce que je voudrais qu'on parle un peu plus longuement de la loi de Lynch, mais il y a évidemment des séquences absolument spectaculaires dedans, sans parler même de la lutte contre un calamar géant à fond de cale sous l'eau, mais il y a ce goût toujours, alors c'est le spectacle hollywoodien par excellence, mais enfin je pense que ça va plus loin chez Cécile B2000, ce goût pour la catastrophe, pour le train qui déraille, pour le bateau qui s'éventre sur un récif, enfin il faut casser quelque chose chez 2000.
Mais oui, parce que ce sont des contes. 2000, c'est sans doute l'un des plus grands conteurs de l'histoire de l'art, je dirais même pas du cinéma. Et ce qui réussit dans ce film, Les Naufrageurs des Mers du Sud, c'est l'un de mes films préférés, toutes catégories confondues. C'est sans doute l'un des plus beaux films en couleur jamais réalisés. Et en fait, j'ai l'impression, alors Pierre Berthomieux est en face de moi, donc je sais que Autant n'importe le vent est l'un de ses films fétiches, préférés, et qu'il adore aussi le cinéma de King Vidor. Ce que 2000 réussit, il produit et il est metteur en scène. Et c'est comme si Autant n'emporte le vent était produit et réalisé par la même personne. C'est-à-dire il a cette capacité-là. C'est un film total, avec une maîtrise, mais aussi des audaces incroyables. Il y a l'un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma, dans une cale de bateau où s'est réfugiée la jeune Susanna Hayward, où elle sort des étoffes d'une malle. C'est absolument extraordinaire visuellement. Et puis, vous êtes emporté dans un flot, et c'est le cas de le dire, ininterrompu de merveilles. En plus, avec moins de réserves peut-être idéologique que dans certains de ses autres films. Moi, je me souviens quand j'avais vu Les Naufrageurs des Mers du Sud dans une copie Technicolor à la Cinémathèque française, quand j'avais une quinzaine d'années, je me suis dit, là, je suis en train de voir l'une des plus belles merveilles du monde.
Pierre Berthomieux.
Eh ben alors oui, donc Autant on emporte le vent, j'allais parler de ça, puisque Les Naufrageurs des Mers du Sud, c'est 2000 qui fait Autant on emporte le vent quand on découvre l'Oxy au début du film, en robe de Scarlett O'Hara, au sommet d'une tourelle, en train de regarder un bateau en train de couler. On se dit, c'est Autant on emporte le vent, mais avec une Scarlett O'Hara qui est capitaine de navire.
Voilà, qui va mettre un pantalon et qui va se jeter dans la barque sous la tempête. Quoi.
Où elle va secourir John Wayne, qui est lui-même aidé par un petit singe, et où Remy Land attaquera John Wayne plus tard avec un caniche, le tout se réglant au fond de l'eau contre un calmar géant. Et donc cette extravagance-là, avec toutes les couleurs, et suffit à résumer cette liberté de l'imaginaire qu'il y a chez 2000, c'est-à-dire que historiquement, je ne suis pas sûr que tout soit très exact dans Les Naufrageurs des Mers du Sud. Les objets, les costumes, oui, les mélanges non plus, hein. Mais il y a cette idée de, il y a quelque chose de Victor Hugo, il y a quelque chose du surréalisme, c'est une liberté d'imaginaire absolue, donc Autant on emporte le vent, devenu baroque, extravagant, pendant quelques minutes, c'est vraiment ça, ce film.
Yeah, you big ape! Yeah, the missing link!
For once, Garrett, you're going to be really tried for murder. And there isn't going to be any bail or habeas corpus. All we want from you are the answers to a few simple questions. And you're going to answer them, like that lawyer of yours made me. Plain yes or no. Horace Thomas is the judge. I'm district attorney. Don, did you get that court reporter?
Harold Miller.
Here.
Yeah, Miller.
All right, be sure you get it all.
I will if you don't go too fast. That's one for the business class at West High.
Yo, West!
Yo, West!
My father's a lawyer. I might be able to help you get the evidence. I'm from South High.
Yay, South!
Yay, South!
We haven't got time for any rules of evidence. Besides, we want a conviction. All right, Don.
Don't jitter now. You might cut yourself.
Vous écoutez France Culture, c'est Plan Large qui clôt cette exploration de l'œuvre très profuse de Cécile B2000 avec une rareté qui n'avait jamais encore été éditée en DVD. Un film, on l'a dit tout à l'heure, tourné juste après Le Signe de la Croix. C'est La Loi de Lynch. Le titre original, c'est This Day and Age. Ça suffit pour dire que c'est un film contemporain, avec un message politique pour le moins ambigu. Est-ce que c'est un message populiste, voire fasciste? Il faut se faire justice soi-même, les institutions sont corrompues, on n'a pas de temps pour les preuves. Ce qu'on veut, c'est une condamnation, ou est-ce que c'est au contraire une façon de filmer la jeunesse de son époque, une jeunesse qui se révolte face à un conservatisme assez raciste d'ailleurs, puisqu'il est question d'un meurtre dont la justice se désintéresse complètement. Évidemment, c'est un petit tailleur juif qui a été assassiné, donc c'est pas très important. Et avec cette scène de tribunal qui n'a rien à envier à celle de M. le Maudit avec l'assemblée des truands qui jugent le psychopathe, sauf que là, c'est une assemblée d'étudiants qui jugent un truand, justement. Un film très étrange, Pierre Berthomieux.
Et ce qui est troublant, c'est que ça fait penser à Fritz Lang, oui, avec la ferveur en plus. Lang, il y aura un détachement froid qui laisse le spectateur être fasciné, mais être à distance. Là, il y a la ferveur de ces personnages, avec ces personnages jeunes et somme toute sympathiques. Alors, le film n'est pas très connu parce qu'il n'y a pas de star et qu'on l'a, finalement, il est difficile de le rattacher à un genre, mais le titre original dit exactement ce que voulait faire 2000, This Day and Age, notre époque en 33. Donc, que le message politique soit ambigu ou dialectique, c'est difficile de trancher. Oui, c'est un film ou populiste ou sur le populisme, mais qui part de l'idée, la corruption du système, c'est-à-dire l'individu contre le système. 2000 est un libertaire. C'est quelqu'un qui est un cinéaste qui a fait carrière dans le système des studios, qui a finalement pris la direction autant qu'il l'a pu du système des studios, de la Paramount, et qui a détesté par-dessus tout qu'on lui dicte quoi que ce soit, que toute forme de système, de structure lui dicte quoi que ce soit. Et dans ce film-là, c'est-à-dire le système est corrompu, le système est conservateur, il y a un système de la mafia qui fait ce qu'elle veut, et finalement, quand on en dénonce un, le système de la justice, il y a une cooptation, une collusion donc, entre les deux, le système est conservateur et raciste, évidemment, si la victime est un tailleur juif. C'est pas très important. Et donc, devant cette corruption, les jeunes incarnent une forme d'innocence, de ferveur. Alors, de fait, cette ferveur se traduit en une organisation de milices qui défile au son de Yankee Doodle avec des chemises un peu de la même couleur. Donc, on comprend bien qu'on ait fait des rapprochements. Donc, il y a une équivoque, oui, parce que le... Si vous parlez de fascisme, ça veut dire des choses très précises que ce film n'est pas. Mais effectivement, il y a ce genre d'équivoque, la fascination et la terreur du pouvoir du peuple qui devient la populace. On a ça chez Capra, on a ça. Sauf que de fait là, 2000 tend la main à l'équivoque en nous faisant sympathiser avec ces jeunes gens qui sont quand même arrêtés à la fin du film parce qu'ils ont fait une peccadille. Donc défiler au son du Yankee Doodle, c'est une sorte de régénération. Parce qu'au fond, ils arrêtent le mafieux, ce que le système est incapable de faire. Et au nom de leur ami, le tailleur juif, qui est mort. Mais à la fin, ils ont, je ne sais, fait quelque chose qui fait qu'ils sont arrêtés. On n'enfreint pas la loi, tout de même.
Oui, ce qui fait que c'est quand même très compliqué d'appliquer une lecture idéologique au cinéma de Cécile B. 2000, qui a toujours été très mal vue en France à cause de sa participation active au macartisme. On se souvient de cette réunion de la société des réalisateurs de films qu'il avait cofondée pour évincer Mankiewicz, faire assigner à tous les réalisateurs d'Hollywood un serment comme quoi ils n'ont jamais touché de près ou de loin au communisme. Et ce qui fait qu'on a eu cette image en France d'un Cécile B. 2000 extrêmement conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, et donc il fallait jeter tous ces films aux orties. C'est compliqué de trouver une ligne idéologique chez Cécile B. 2000, Ntemine.
C'est pas compliqué parce qu'il y en a plein, donc on peut toutes les trouver. Ce qui est intéressant chez 2000, comme chez beaucoup de grands cinéastes d'ailleurs, c'est la contradiction, ou la complexité, ou parfois l'ironie. C'est comme quand on parle de la pureté des genres, lui, c'est quelqu'un du mélange des genres. De la même manière, pour les idéologies, c'est mélangé au service d'une histoire à raconter. Par exemple, l'Odyssée du docteur Wassel, qui me concerne parce que les Asiatiques sont diabolisés comme les Indiens dans les westerns.
C'est son grand film bouddhiste en même temps.
En même temps.
Gary Cooper va prier Bouddha et être exaucé.
Absolument. Et c'est là qu'on rejoint le 2000 conteur d'histoire. C'est-à-dire que il y a jamais une lecture unique, mais il y a ce pouvoir qu'il a de nous mener dans le flot d'un récit et ensuite de nous dire, voyez, je vous ai quand même, j'y suis arrivé. Regardez ce que vous êtes devenu en regardant ce film.
Pierre Berthomieux.
Idéologiquement, dans le cinéma classique, les cinéastes républicains sont les plus complexes et les plus inclassables. Non pas pour dire que le discours des démocrates antiracistes, généreux, donc humanistes, ça, on adhère à ces valeurs, c'est quelque chose qui va de soi. Mais finalement, le discours est moins complexe quand Géant se termine et que ça stigmatise le racisme donc au Texas. On est pris, on est d'accord, on est en harmonie. Ça ne fait pas débat. Avec 2000, avec John Ford, il y a une complexité donc idéologique qui est mille fois plus impossible à démêler. Je trouve que Franck Capra, les républicains sont beaucoup plus complexes.
Et vous avez fait, Pierre Berthomieux, votre thèse, si je me souviens bien, sur Cécile B2000. Est-ce qu'il y a encore des jeunes gens, vous qui enseignez quand même Entebbe, le cinéma à l'université, qui s'intéressent à Cécile B2000, ou est-ce que c'est vraiment un cinéaste oublié aujourd'hui?
Ils n'en connaissent pas le nom, il n'est pas plus ou moins oublié que les cinéastes de la même époque, à part Hitchcock, c'est le seul cinéaste qui est surnagé. Mais il se passe toujours le même phénomène, une fois que voilà, qu'ils sont habitués à des images venues de films du passé, quelques séquences par ce que j'appelais leur poésie, leur extravagance, leur violence, leur érotisme, capturent l'attention. C'est un cinéma qui a un pouvoir d'évocation très très immédiat, parce qu'il surprend. Il surprend, il émerveille. Ce qu'on est en droit de choses les plus fondamentales que le cinéma peut nous apporter, nous surprendre et nous émerveiller.
Merci Pierre Berthomieux, on se quitte, vous l'aurez reconnu, sur cette musique composée par Elmer Bernstein, grand fidèle de Cécile B2000, c'était pour les Flibustiers en 1938. Tous les films dont nous avons passé des extraits dans ce plan large, aux airs de superproduction, Le Signe de la Croix, Cléopâtre, Les Tuniques écarlates, Les Conquérants d'un Nouveau Monde, Les Naufrageurs des Mers du Sud et cette rareté, donc La Loi de Lynch, ils sont tous disponibles en DVD et en Blu-ray chez Elephant Film, avec des présentations toujours haute en couleur de l'ami Jean-Pierre Dionnet. On espère prochainement une réédition de votre Bible sur le cinéma classique hollywoodien, Pierre Berthomieux, Hollywood classique, Le Temps des Géants chez Rouge Profond. En attendant, on lira le petit livre, toujours très étonnant et amusant, du pince sans rire Luc Moulet, Cécile B2000, L'Empereur du Mauve, c'est chez Capricci. Je signale à nos auditeurs parisiens que jeudi prochain, le 4 octobre à 20h, notre nouvelle séance France Culture au Majestic Bastille sera consacré au documentaire d'animation Le procès contre Mandela et les autres. C'est notre directrice Sandrine Trainer qui animera le débat avec les réalisateurs du film Nicolas Champeau et Gilles Porte. Entebbe, merci d'être avec nous aujourd'hui, alors que vous êtes très très affairé en ce moment à monter votre alléchante exposition à la Philharmonie de Paris, comédie musicale La joie de vivre au cinéma. Il faudra attendre le 19 octobre pour la découvrir. Nous la visiterons avec vous dans un plan large à venir. Pour patienter, des comédies musicales, on peut en voir en ce moment et jusqu'au 9 octobre, Swinging USA, un programme de 14 musicals américains. C'est au Christine 21 à Paris. Mais pour l'heure, ce n'est pas de film chanté et dansé dont vous allez nous parler, Entebbe, mais des polars anglais et communs.
You came in about too early again, George. If you watched my hand instead of looking up in the air, you wouldn't do it, you see.
Well, I was watching. I'm sorry, Tef.
Put him on the report.
Come on, the canaries. Let's hear from you.
Nymphs and shepherds.
Pum, 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 pum.
Three, four.
No, there's a death rattle.
in that back row. I don't know who's doing it, but it doesn't sound very nice.
I think it's me, Taff. I've got a frog in my throat.
If I was you, I'd let the frog do the singing.
1, 2, 3, 4.
Fall in the night shift.
No respect for music or anything else with their old parades. Same time tomorrow night, boys.
Ce sont de très vigoureux Bobbies qui entonnent avec cette voix d'ange un peu enrouée les nymphes et bergers de Purcell. C'est un extrait de The Blue Lamp, Police sans armes en français, un film de Basil Darden, un cinéaste très important des studios Ealing qui faisait plutôt des comédies au départ, mais qui avec ce film en 1950 inaugure un genre typiquement britannique, le film policier aussi réaliste que influencé par les films noirs américains. Et c'est un DVD qui inaugure une nouvelle collection chez Tamasa. Suspense Made in UK, des polars anglais. Donc on commence avec The Blue Lamp, N.T.B., un film à la gloire de la police de proximité, mais plus complexe qu'il n'y paraîtrait, ne serait-ce que par sa description d'une jeunesse complètement imperméable au paternalisme grand-breton et victorien, des rebelles sans cause avant la lettre.
Oui, alors ce qui est aussi très intéressant dans ce film, c'est qu'il est à une charnière dans le cinéma britannique juste après la guerre, entre plusieurs courants passés et qui annoncent aussi des courants à venir. C'est-à-dire que vous avez une génération de cinéastes qui ont été formés par l'école documentaire, par les films de propagande, notamment pendant la guerre. Et tout cela va se mêler au goût populaire pour les genres, dont le polar. Et très souvent, avec une dose, surtout dans les films de la Ealing, une dose de réalisme liée en grande partie aux histoires racontées, issues parfois de faits divers, mais aussi à l'utilisation de décors naturels et au mélange tout à fait harmonieux et sans solution de continuité entre des scènes d'intérieur en studio, dans les studios Ealing, et des scènes parfois très spectaculaires, y compris des courses-poursuites urbaines dans la ville de Londres, qui donnent une sorte de cachet qui se rapproche d'une veine du film noir américain, qui est celle influencée aussi par le néo-réalisme italien. C'est-à-dire que montrer ce qui se passe dans l'évolution de la vie sociale britannique, et tout en faisant un film très public, et en inventant, en l'occurrence, une sorte de nouveau genre. Et c'est assez amusant qu'on ait cette chorale de policiers dans ce commissariat qui, pendant une petite pause, se met à chanter du Purcell. C'est le film chorale policier, ce qui est quand même assez rare. Parce qu'on connaît des comédies ou des drames ou des films à sketch. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on voit ce qui se passe du côté de la police. En parallèle, on voit ce qui se passe du côté des criminels ou des délinquants. Et ça, il n'y a pas de suspense lié, si vous voulez, à la découverte d'une énigme ou d'un coupable, puisque les destins de tous ces gens, parce qu'ils font partie de la même société, c'est très unanimiste, la Ealing, eh bien, on les suit de façon tout à fait en montage alterné et en s'attachant autant aux uns qu'aux autres, même s'il y en a qui commettent des actes répréhensibles, finalement ils font partie du même peuple.
Ils sont un peu perdus. On signale dans le film un jeune Dirk Bogarde d'un érotisme absolu en petit voyou. Basil Darden est également à l'honneur avec un deuxième film édité par Tamasa dans cette collection Suspense in UK.
Johnny, what is it? Won't you tell me?
It's nothing.
Don't feel so bad about it.
Something like that happened the first time I met Dan. He got in a fight because of me.
You think the world of Dan, don't you?
Yeah. Gonna miss him.
Miss him?
Going home after the next trip.
Where's home?
Falmouth.
In Cornwall?
Cornwall, Jamaica. We've got a Surrey there too, and a Middlesex. They like those English names out there.
Do you want to go back?
Some ways. I like the sea, but not for all my life. Spent a lot of hours on it, thinking about things, getting ambitions, all sorts of high and mighty ideas. Now I've saved a bit of money, I want to go back to school to see if I can turn them into something. I may not have any brains, but at least I'd like to find out.
Basil Dardenne toujours avec Pool of London, les trafiquants du Dunbar en français. On parlait de mélange des genres chez Cécile B2000. Ce film est très étonnant pour ce qui est de tous ces genres mélangés précisément.
Oui, en fait, c'est un mélange d'histoires différentes qui sont reliées par... Le titre français est assez bon d'ailleurs. C'est le Dunbar, c'est un bateau de marine marchande qui vient de Hollande. Donc il y a une histoire de trafic de diamants qui est mêlée au récit principal. Ici, on est plutôt du côté des délinquants, mais on a aussi une course-poursuite avec la police qui enquête. Et dans les diverses histoires qui sont racontées, il y en a une qui est assez transgressive par rapport, par exemple, au film noir américain, qui est une idylle ou une ébauche de romance entre un marin noir et une jeune femme blanche, une londonienne, avec cet aspect racial qui joue un rôle très important dans le déroulement des événements et qui est lié aussi à l'amitié de ce marin noir avec un marin blanc qui est le pivot, qui est un peu le héros qui relie toutes ces histoires. Et c'est une sorte de radiographie du petit peuple londonien de cette époque-là, y compris qui a besoin de se débrouiller dans une période très très difficile qui est après la guerre, où on voit à un moment une église qui a été ravagée par le Blitz. Enfin, et c'est pas du tout un Londres touristique qu'on découvre ici. C'est,
d'ailleurs, enfin, ça se passe dans des monuments, ça se passe dans un coin très touristique, il y a la Tour de Londres, etc. Oui. Mais c'est filmé, on a le sentiment d'avoir jamais vu Londres comme ça. C'est un vrai Londres de film noir.
Ça se rapproche un petit peu de... Il y a un film de Jules Dassin qui s'appelle Les Forbans de la Nuit, l'un de ses meilleurs, Night and the City, quand il était exilé en Europe, qu'il a tourné, qui est un film noir avec des acteurs américains et britanniques. Il y a ce côté pseudo-documentaire dans la façon de filmer les lieux et en même temps de les intégrer à un écheveau très complexe narratif. Donc non, c'est vraiment une découverte, ce Pool of London, qui est d'ailleurs très bien analysé comme les autres films dont nous parlons, britanniques, par Charlotte Garçon, notre amie et collègue, qui met justement l'accent sur cette originalité au sein d'un cinéma qu'aujourd'hui, surtout en France, la cinéphilie ignore très largement.
Oui, et dans les découvertes aussi de cette livraison chez Tamasa, il y a 10 ans plus tard, Payroll, les gangsters en français de Sydney Ayers. On n'est plus du tout à Londres, on est à Newcastle. D'ailleurs, dans les rares polars anglais qu'on connaît, il y a Get Carter de Michael Judge qui sera tourné lui aussi, mais 10 ans plus tard à Newcastle. Et là encore, c'est un film très très surprenant.
C'est presque un exercice de style, parce que c'est un film de casse avec tous les ingrédients qu'on attend du film de casse. Et comme la plupart des bons films de casse, c'est aussi une étude de caractère et de personnage. Et c'est là que le film devient très intéressant, puisque, un peu de la même manière que ces deux autres films de Basil Dearden, nous suivons de façon parallèle les destins et les réactions de plein de personnages différents, qu'ils soient au départ protagonistes ou non, c'est-à-dire des personnages de second plan vont venir au premier plan. Il y a un personnage de Vamp, joué par Françoise Prévost, de la nouvelle vague française, qui est joué comme les Vamps françaises dans les films britanniques de l'époque, c'est-à-dire Simone Signoret, Jeanne Moreau dans Eva, c'est-à-dire une femme fatale moderne, qui est elle aussi une victime du système. Et c'est comme ça, en fouillant un petit peu la personnalité de chacun de ces protagonistes, un film aussi codé que le film de casse Payroll, avec beaucoup de style d'ailleurs, se permet une originalité assez stupéfiante.
Merci beaucoup, Bean. On se quitte sur la très belle musique composée par le saxophoniste Reg Owen pour ce Payroll de Sydney Ayers en 1961. Le film, tout comme The Blue Lamp et Pool of London, sont édités en DVD par Tamasa dans leur nouvelle collection Suspense Made in UK, accompagné tous les trois, vous l'avez dit, d'un excellent livret signé par notre chère Charlotte Garçon. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Martin Delafosse et Clément Daté. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanine. Anna. La semaine prochaine, après Cécile B2000, Plan Large s'intéressera à un autre nabab du 7e art qui a régné en maître, lui, pendant des années sur le cinéma français, Claude Berry, dont l'intégrale des films sort en coffret DVD Blu-ray chez Pathé. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.